Bonjour, c'est Laurent Carilla, le psychiatre addictologue de Ça commence aujourd'hui. Vous écoutez Addiction, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonjour, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la cocaïne, le jeu, les tranquillisants, les opioïdes ou encore le sport, comment un produit ou un comportement qui est censé au départ vous faire plaisir ou vous soigner peut devenir une dépendance, une spirale infernale. C'est quoi exactement une addiction? Comment elle s'installe dans notre cerveau et dans notre corps? À quel moment on devient addict? Et comment on peut réussir à s'en sortir? Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction. Et pour cette deuxième saison, ce sont des personnalités qui ont accepté de se livrer. Addicts ou anciens addicts, ils et elles vont nous raconter ce plaisir qui devient souffrance, ce déni, cette honte, cette perte de contrôle et de liberté, mais aussi les risques pour leur santé. Bienvenue dans la saison 2 de Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Celui que je reçois aujourd'hui dans cet épisode a chanté sur les plus grandes scènes, rencontré les plus grands musiciens du monde. Il est l'auteur de chansons cultes. C'est Louis Bertignac, c'est un immense chanteur, un immense musicien qui a commencé, comme vous le savez, dans le groupe Téléphone, puis a continué en solo.
Quand t'en prends pas, t'es pas bien. Et t'en prends juste pour être à peu près dans l'état, à peu près dans ton état normal.
Ouais.
T'en prends juste pour être dans l'état où tu étais, dans lequel tu étais avant de commencer à prendre de l'héro. C'est tout, juste retrouver un état normal.
Bonjour Louis.
Bonjour.
Merci Louis d'avoir accepté de participer à ce podcast. Louis, avant de commencer, je vous propose qu'on se tutoie si vous êtes d'accord.
Pour moi, pas de problème.
Ok, super. Donc Louis, tu viens de publier une autobiographie qui s'appelle « Jolie petite histoire » aux éditions du Cherche Midi. Tu racontes les meilleurs moments de ta vie, mais aussi les pires moments. Rocker dans les années 80, tu confies dans ton parcours avoir touché à pas mal de drogues. À quel âge
Ouais, c'est vrai.
À quel âge t'as commencé à consommer de la drogue, en fait? Des drogues. Et quelles drogues?
Ouais. J'ai essayé un peu toutes les drogues dures pour commencer, mais genre essayé juste une fois chacune.
Ouais, t'as essayé quoi, genre?
J'ai essayé l'héro, la morphe et la cocaïne.
La morphe,
ouais. En shoot.
Ah ouais, t'es injecté. Ouais. C'était à quelle époque?
J'avais 17 ans, j'étais en première ou en terminale, je sais plus.
Ouais, et comment t'as expérimenté ça, en fait? Parce que...
Bah, j'ai été chez un copain de copain.
Ouais.
Et j'avais un esprit assez scientifique, donc je voulais essayer.
Ouais. Tu voulais expérimenter.
Je voulais savoir de quoi il s'agissait, en fait, vraiment.
Ouais.
Et c'était pas pour m'accrocher ni rien, c'était juste pour tester le truc. Et en fait, il y a aucun de ces trois essais qui m'ont plu, qui m'a plu. À chaque fois, après le shoot, je tombais plus ou moins dans les pommes. Et j'avais des sifflements très forts dans les oreilles en émergeant, quoi.
Et ça me faisait pas du tout. Ces sifflements dans les oreilles, ça t'a fait quoi, en fait? Ça t'a marqué quelque chose? C'est la première fois que ça t'a fait siffler les oreilles et t'es tombé dans les pommes, quoi.
Ouais, je suis tombé dans les pommes pendant quelques secondes et je me suis réveillé avec des gros sifflements dans les oreilles. C'était la première fois que j'avais des sifflements dans mes oreilles et je pense que c'était dû à la sensation de danger du truc. Ça me faisait peur, donc ça me faisait siffler les oreilles. Ou alors, ça n'avait rien à voir avec ça, mais ça me faisait siffler les oreilles à chaque fois.
Et donc, 17 ans, tu goûtes à l'héroïne, la cocaïne et de la morphine en intraveineuse. Et après, ouais. Alors, c'est quoi le parcours? T'as pas goûté à d'autres choses? Au cannabis, au clope, au tabac?
Bah, si, certainement. Ouais, les clopes aussi, déjà.
Ouais.
Et le cannabis, peut-être juste après, je me suis mis.
Ouais.
Et bon, c'était habituel. J'allais chez les potes, on fumait un pétard... même voir des chillums chez certains potes.
Ouais.
Et c'était devenu une habitude dès que j'allais les voir, parce que j'aimais bien rencontrer des musiciens, et il y avait pas mal de musiciens qui fumaient.
Ouais.
Et donc, je me retrouvais chez eux, et ben, ça tournait, donc je fumais aussi.
D'accord. Et t'as réexpérimenté après la cocaïne, l'héroïne, la morphine ou d'autres drogues?
Ouais, après c'était beau, plus light, quoi. Comme j'avais peur, ça m'avait foutu les jetons.
Ouais.
J'y allais plus light, je goûtais en petit sniff.
Tu sniffais les produits plutôt.
Ouais, et puis, disons, 2-3 ans après, C'est un copain qui m'a fait découvrir l'héro en sniffant et avec des petites doses.
Ouais.
Et là, ça me faisait moins peur. Et j'avoue que j'ai aimé. J'ai aimé la sensation que ça m'a apporté.
C'était quoi? Tu te rappelles la première fois ce que ça t'a fait?
J'ai l'impression que ça me détendait beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Toute cette tension qu'on a quand on est ado, ça me la faisait oublier. Ça, comme si j'avais tout à coup 30 ans de plus.
Ouais.
J'avais le même cerveau, mais avec toutes les angoisses en moins.
Donc,
c'est pour ça
effet,
que j'aimais
ouais.
bien ça.
Ouais, ouais. Donc, je vais rappeler rapidement les effets de l'intoxication aiguë à l'héroïne. C'est d'abord, les premières fois, c'est comme on appelle ça le flash orgasmique. Quoi. Il y a un flash orgasmique, il y a une sensation de détente, de sédation. Et t'as pas vomi, t'as pas eu des nausées lors de ces premières prises?
Si, si. J'avais toujours, pratiquement après chaque sniff d'héro, j'avais des nausées. Et donc, j'allais vomir.
Ouais.
Mais ça ne me dérangeait pas outre mesure parce que je ne sentais pas le mauvais goût du vomi. C'était juste du liquide qui sortait de ma bouche aux toilettes.
Ouais.
Et je ressortais de là et ça allait mieux. Alors, je ne sais pas si c'était dû à la tension ou alors, je ne sais pas, un effet naturel. En tout cas, j'ai remarqué qu'au bout de quelques semaines, j'ai eu l'impression que c'était un genre de nervosité qui me faisait vomir. Et donc, après chaque sniff, je m'allongeais jusqu'à que cette sensation disparaisse. Et du coup, j'avais plus besoin d'aller vomir. Après,
ouais, t'as eu un phénomène où tu es habitué, en fait. Il y avait une tolérance. Est-ce que t'as augmenté progressivement les doses d'héroïne?
Non, pas du tout.
T'étais à quoi en quantité, à peu près, toi?
Eh bien, je pense que le quart de gramme, ça me durait facilement une semaine, 10 jours.
D'accord, tu consommais en petite
quantité. C'était des toutes petites, ouais, c'était des toutes petites lignes. Quand les copains faisaient une grande ligne de 10 cm, moi, la mienne, c'était 1 cm parce que j'avais quand même peur.
Et t'as revu?
J'avais peur que ça m'abîme.
Ces sifflements d'oreilles, c'est revenu?
Non,
C'est plus jamais revenu.
Ils sont venus beaucoup plus tard.
Ouais, mais ça, tu penses que c'est lié à la musique, aux amplis et tout ça, non?
Bien sûr, il y a de ça. Des Larsen dans les micros, des ingénieurs du son un peu distraits qui poussent le volume d'un coup.
Ouais.
Et j'ai l'impression que... Bon, alors, c'était... Après les concerts, c'était assez régulier d'avoir ces sifflements dans les oreilles.
Ouais.
Mais ça disparaissait. Le lendemain, j'en avais plus. Mais un jour, c'était il y a 6-7 ans, on m'a fait un examen général et on m'a posé un stent.
D'accord, ouais, au niveau du cœur.
Et à la sortie de l'opération, j'ai eu des acouphènes, mais que j'ai encore, qui n'ont jamais disparu.
Ouais, t'as encore des petits acouphènes.
À l'oreille gauche, éternel. Il paraît que les opérations, ça peut donner ça.
Tout peut donner des acouphènes, il y a plein de quoi.
Ouais.
Et si on reprend un peu ton histoire, donc tu disais vers 20 ans... Petite ligne d'héroïne, un peu un quart de gramme toutes les semaines. Il y avait d'autres substances à côté que tu consommais, c'est-à-dire justement le tabac, le cannabis, l'alcool.
Ouais, tabac et le shit.
Pas d'alcool.
Non. J'ai dû me bourrer la gueule 3-4 fois dans ma vie.
Ouais, d'accord, c'était pas une substance.
Ça me détruisait trop. J'avais pas ce plaisir, mais bon, j'en avais d'autres. Donc entre l'héro et le shit, je me disais que c'était suffisant.
Ouais, ouais. Et alors, parallèlement à ça, bon, tu faisais de la musique, alors donc de la musique. Et t'as des histoires de défonce avec des musiciens? Sans rentrer, peut garder le secret médical, si tu veux.
Non, il n'y a pas de souci. Mais je prenais, de temps en temps, je prenais un acide.
Ouais.
Du LSD.
Ou
des champignons.
Ouais,
ou des champignons. Avec ça, la musique se passait différemment.
Ouais.
Avec le reste, non. Avec ces trucs-là, la musique devenait presque physique. C'est-à-dire que quand je tirais une note, j'avais l'impression que ça me retournait l'estomac.
Ouais, ouais.
Et parfois, j'avais l'impression, sous acide, que la résonance... J'avais l'impression que je jouais en haut d'une montagne et que c'était énorme.
Ouais.
Et ça m'a fait aussi certaines sensations en écoutant de la musique aussi.
Ouais, c'est-à-dire tu ressentais quoi?
Surtout avec la guitare.
Ouais. Tu ressentais
Je ressentais un truc...
Ouais.
Un truc physique.
Ouais, la couleur du son,
physique,
non, un peu, des choses comme ça.
Ça changeait pas de couleur dans ma tête, mais ça me faisait des sensations physiques. ça me remuait un peu suivant. Et c'est surtout la guitare qui me faisait ça. Ouais, et la voix aussi.
Ouais.
En écoutant justement des guitaristes qui étaient spéciaux acides.
Ouais,
comme les mecs de Grateful Dead, par exemple.
Ouais, Grateful Dead, ouais.
Jerry Garcia.
Ouais.
Jerry Garcia, et parfois, il montait les notes d'une certaine manière que ça me faisait un truc tout à fait spécial. Et j'écoutais Grateful Dead seulement sous acide, sinon ça ne me faisait rien du tout, ça ne me faisait pas spécial.
Et tu as consommé avec beaucoup d'artistes ? Ou tu étais plutôt dans une consommation solitaire ?
C'était solitaire ou avec un pote, quoi.
Ouais.
Un pote ou deux, quoi.
Ouais, tu mélangeais pas, on va dire, le travail et les consos ?
Non, d'autant plus que j'aimais pas du tout jouer défoncé.
Ouais, d'accord.
Et quand j'étais avec téléphone, ou l'époque où j'étais vraiment dans les roues, eh ben, j'allais jamais répéter défoncé. Et quand je partais en tournée, c'était justement la décroche.
Ah, tu te consommais pas pendant les tournées ?
Jamais.
Même en after ?
Jamais. Non, pas du tout. Je reconsommais quand la tournée se terminait et que je rentrais à Paris.
Ah ouais ?
C'était sinon, jamais.
Pendant les années téléphone, ça ?
Ouais, mais toujours. De toute façon, après, j'avais arrêté déjà l'héros. Mais pendant téléphone, chaque départ en tournée, c'était une occasion de décrocher. Alors pendant les 2-3 premiers concerts, je suais beaucoup et j'étais un peu fébrile.
Ouais.
Comme quand on décroche.
Ouais, au début, ouais, quand tu décroches, ouais.
Mais au bout de 2-3 concerts, ça partait et j'avais décroché.
Mais tu gardais quand même le tabac et le cannabis ?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Ouais, le cannabis, pas beaucoup, mais ça ne me dérangeait pas de jouer. Ouais. De toute façon, le cannabis, ça ne m'a jamais fait grand-chose. C'était une habitude, comme le tabac.
Comme le tabac, ouais.
Ça ne me fait pas grand-chose. J'ai toujours cette habitude. Hein. J'ai toujours la clope à côté de moi.
Ouais, d'accord.
J'attends la fin, j'attends la fin de notre casting pour la fumer. Hein. Je suis accro.
Ouais, tu fumes. Là, actuellement, tes substances, c'est tabac, essentiellement ?
C'est tout. Ouais. Tabac, ouais.
Ouais. Tu fumes beaucoup ?
Ouais, presque un paquet. Ouais. J'aimerais bien arrêter. Hein. Et j'ai toujours ce truc de... J'ai l'impression, enfin, tu dois savoir en tant que psychiatre, et que je suis plusieurs personnes à l'intérieur.
Bah oui.
Je suis au moins ces deux personnes.
Bah t'as un personnage et une personne.
Ouais, non, pas seulement. Je suis celui qui se dit au réveil chaque matin, c'est fini, je fume plus.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et celui qui se dit 2 heures après, allez, j'ai envie d'une clope.
Ouais. Bon, après, il y a des stratégies. Hein, si tu as envie, il y a des stratégies pour arriver à se motiver à changer. C'est même pas l'idée d'arrêter. Ça existe. Hein, y a des stratégies qu'on appelle des stratégies motivationnelles.
Ouais.
C'est des petits exercices à faire et ça peut aider.
Ah bah, je veux bien si tu en as.
Bien sûr. Sur les années téléphone, ouais, donc, tu dis, si on reprend un peu, l'héros t'arrêtait pendant les tournées et tu faisais une décroche pendant les concerts, enfin les tournées. Donc, tu avais ce syndrome de sevrage. Je vais peut-être rappeler un peu le syndrome de sevrage en héroïne pour les auditeurs et les auditrices. C'est syndrome de sevrage en héroïne ou en morphinique ou en opioïde maintenant, puisque les gens prennent plutôt des médicaments opioïdes. C'est comme un syndrome pseudo-grippal. Hein. C'est un peu des symptômes comme une grippe. Ça dure une grosse semaine et ça s'arrête. Mais c'est vrai que chez les gens qui sont addicts, c'est très difficile parce qu'il y a des gros risques de rechute à la fin de ce syndrome de sevrage avec des grosses envies de consommer qu'on appelle des cravings. Toi, sur ce qui est l'aspect LSD, champignons, etc., ça, tu consommais plutôt, tu faisais des trips un peu tout seul, ou bien tu as déjà fait des trips avec les gars de téléphone, ou même avec Corinne de téléphone, quoi.
Ouais, ça m'est arrivé quelques fois, comme on était tous dans la même bande, on était une bande, et quand il y avait quand quelqu'un prenait un trip, en général, les autres
suivaient.
Les autres qui étaient là, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc ça m'est arrivé de prendre un trip en compagnie de Corinne, mais je crois qu'elle n'en prenait pas, elle, si je me souviens bien. Ça m'est arrivé avec Jean-Louis, je crois que Richard n'a jamais touché à ces choses-là.
Tu faisais quoi avec Jean-Louis ? Dans ton bouquin, tu parles d'un épisode avec une 4L.
Ouais, j'avais une 4L dès le départ, ouais.
Et avec Jean-Louis, il y a une histoire, non ? Vous êtes parti sur du LSD, etc., non ? Un truc comme ça ?
Oui, il y a eu pas mal d'histoires avec Jean-Louis à la 4L. On traînait beaucoup ensemble et presque tous les soirs, vu qu'on adorait jouer et qu'en général les voisins n'aimaient pas qu'on joue, souvent on se barrait avec la 4L, on allait dans le bois de Boulogne, on se trouvait un coin tranquille et on se mettait à jouer parce que c'était une fourgonnette.
Ouais.
on jouait à l'arrière, tranquillement, votre studio de répète. Personne nous emmerdait.
Ouais, c'était votre studio de répète, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et vous avez composé certains titres à l'arrière de la 4L ?
C'était de l'impro. Alors peut-être quelques impros ont suscité des créations, mais je me souviens pas.
Et Louis, quand tu reprenais l'héroïne après les tournées, c'était quoi le rituel, quoi ? Parce que bon, t'avais décroché, donc je sais pas, les tournées ça durait quoi ? Quelques mois, et
pendant les tournées, je me disais c'est fini, je retomberai plus là-dedans.
Ouais.
Et au bout de 2-3 jours à Paris. J'avais des potes qui en prenaient et j'allais voir les potes.
Ouais, c'est
et
ça.
Et donc,
voilà. C'était de l'environnement, quoi. C'est-à-dire que ce qui te faisait rechuter, c'était je vais revoir les gens qui consomment de l'héro, je sais que l'héro, ça me fait du bien, donc let's go, quoi. C'était ça ?
Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, le jour où j'ai arrêté définitivement, j'ai arrêté de voir les potes, ces potes-là.
C'est important de le dire.
Je me suis interdit de voir ces potes-là,
Ouais. Et ça dure combien de temps, les années héroïne, alors ?
Je pense que de 20 ans à 30 ans.
10 ans.
Une bonne dizaine d'années.
Dizaine d'années. Ouais. Et tu as fait des incidents à cause de l'héroïne ? Je sais pas, tu t'es déjà retrouvé aux urgences ? Tu as déjà fait des overdoses ?
Non, vraiment, parce que j'étais extrêmement prudent. Hein. Ouais. Je la jouais homéopathie. Je prenais juste assez, parce que, comme tu sais... au bout d'un moment, quand t'en prends pas, t'es pas bien.
Ouais, tout à fait.
Et t'en prends juste pour être à peu près dans l'état, à peu près dans ton état normal.
Ouais.
T'en prends juste pour être dans l'état où tu étais, dans lequel tu étais avant de commencer à prendre de l'héro.
Ouais.
C'est tout, juste retrouver un état normal. Donc c'était des toutes petites lignes.
Mais il y avait plus de plaisir finalement. Tu voulais t'en prenais pour pas souffrir.
Ouais, c'est ça.
Malgré les conséquences.
Il n'y avait aucun plaisir. Il n'y avait pas de plaisir. Je voulais juste être normal.
Ouais.
Et je pense que cette situation a duré presque 8 ans. Quoi.
Ouais. Et tu t'es déjà retrouvé en manque ?
Eh ben non. Non, on ne peut pas dire ça. Comme on disait tout à l'heure, c'est les 2-3 jours où tu n'es pas terrible.
Ouais.
Tu es nerveux. Tu as du mal à dormir.
Ouais.
Quand
tu étais revenu sur Paris, enfin, tu voyais tes potes et il y avait de l'héro tout le temps, en fait, en gros.
Ouais, c'est ça. Donc j'en reprenais. Mais ce n'était pas parce que je ne me sentais pas bien, parce que je me sentais bien, tu vois. Mmh. À la fin d'une tournée de 2 mois, j'avais plus besoin du tout d'héro, quoi.
Ouais.
Mais c'était, c'est sympa, tiens, on va reprendre.
Ouais.
Et je retombais dedans comme un con, quoi.
Il y a eu des conséquences de cette consommation d'héroïne. Je ne sais pas, est-ce que tu partageais le matériel de consommation ? Est-ce que tu partageais les pailles ? Est-ce que, je ne sais pas...
Ouais, c'était des pailles de McDo, tu sais.
Ouais, les pailles de McDo, ouais. Et vous partagez les pailles,
Je pense que c'est à cause de ça que j'ai chopé une hépatite C.
Ouais, tu chopes l'hépatite C quand ?
Eh bien, j'en sais rien, je peux pas le dire, qu'à...
Ouais.
À 50 ans, j'ai fait un check-up total.
Ouais.
Et ils m'ont trouvé une hépatite C.
D'accord.
Et il a fallu la soigner. Mais ils ne savaient pas depuis quand je l'avais chopée.
Ouais.
C'est soit je l'ai chopée quand j'ai fait ces 3 shoots, soit je l'ai chopée avec les sniffettes, quoi. Je ne sais pas.
Ouais.
J'ai jamais su,
Quand
tu avais
fait les shoots, tu partageais tes seringues ou tu les avais fait tout seul ?
Franchement, je faisais comme on me faisait. C'est moi, je ne faisais rien du tout. Je n'étais pas capable. J'avais juste les jetons et je ne regardais même pas ce qui se passait.
Ouais, t'as été initié au shoot, en fait, c'est ça ?
C'était une initiation. Oui, c'est ça. Jamais je me suis enfoncé une seringue. Ouais. Sauf pendant l'hépatite C. Ouais. Là, je prenais de l'interféron et
je
m'enfonçais la seringue dans le ventre ou dans la cuisse, c'est bon.
Ouais.
Et c'était une période très, très pénible.
Ouais, le traitement d'hépatite C, ça a été... c'était quoi, plusieurs mois de traitement et de suivi ?
Ouais, c'était 9 mois de fatigue très intense parce que c'était interféron et ribavirine.
Ouais.
Et c'était très, très rude. Là, je sentais que j'avais 90 ans.
T'as fait quoi pendant toute cette période ? Alors, t'as un peu arrêté de
bosser ? Je faisais rien.
Ouais.
Je faisais rien. Je me permettais même pas de faire de la musique parce que c'était moins agréable. Je faisais même pas l'amour. Je faisais rien. Juste, je me soignais.
Ouais.
J'écoutais un peu de musique. Ah oui, je me suis bien entraîné à travailler dans le studio, quoi. J'ai une table de mixage, je m'entraînais à... Voilà, c'est là que j'ai appris à mixer.
D'accord.
C'est là que j'ai appris à faire les sons. J'avais que je pouvais faire que ça, quoi.
Et ta guérison de l'hépatite C, donc maintenant, elle est effective ?
Ouais. Bien sûr. Au bout d'un an, j'avais absolument plus de problèmes.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'avais remarqué un truc à l'époque, c'est que il y a énormément d'angoisses qui sont parties quand j'ai soigné ce truc.
Ah oui ? C'est-à-dire ?
Si tu veux, j'avais des... Je ne le savais pas, puisque pendant 30 ans, je ne savais pas que j'avais l'hépatite C en moi. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai été soigné de ça, quand la fatigue des remèdes a disparu, j'étais beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux de me lever le matin. La vie était plus belle, naturellement, sans rien d'autre.
T'étais moins
triste.
Alors que
si tu veux, ouais, pendant toutes les années téléphone, j'avais vraiment de quoi être très heureux.
Ouais.
Et j'étais jamais très heureux. Et quand je me réveillais le matin, c'était presque merde, encore une journée qui commence, tu vois.
Ouais.
Alors que j'avais tout pour être heureux. Je pense que le foie, ça joue beaucoup là-dessus, sur
bien
l'humeur.
Sûr. Et surtout, il y a un point important que tu soulignes, c'est que l'hépatite C et la dépression sont fortement liées. L'hépatite C et les troubles anxieux sont fortement liés. Donc sûrement que cette hépatite C a un peu aggravé l'état un peu psychique que tu avais, quoi. Mais
ouais.
Tu dis... J'avais tout pour être heureux pendant les années téléphone, mais t'étais comment psychiquement pendant les années téléphone ? Parce qu'il y a le côté personnage, hein, mais le côté Louis, pas Louis Bertignac de téléphone.
Moi j'étais, si tu veux, j'ai un peu de mal à m'en souvenir parce que ça date vraiment, mais j'ai franchement aujourd'hui l'impression que j'étais pas aussi heureux que je devais l'être, que je méritais de l'être, à cause de probablement de ce foie qui était en train de s'abîmer, tu vois.
Ouais.
Quand j'ai fait ce check-up à 50 ans, ils m'ont fait une biopsie, ils ont vu qu'il y avait déjà un genre de nécrose du foie. Alors, à cause de l'hépatite.
Bah oui.
Il y a des gens qui ont ça parce qu'ils se bourrent la gueule tous les soirs. Moi, je buvais jamais. C'était juste l'hépatite qui me faisait ça.
Ouais, c'est l'hépatite à cause des drogues.
Et quand j'ai soigné cette hépatite... Le foie s'est reformé.
Ouais, ça s'est régénéré.
Tu connais, hein. C'est comme une éponge.
Ouais.
Il y a le genre de nécrose au milieu qui marche plus, un foie pourri. Mais du vrai foie se reforme.
Et là,
ça marche mieux. La circulation se fait mieux. Et donc, t'es beaucoup plus heureux de vivre comme ça qu'avec le foie un peu abîmé.
Donc, tu décroches de l'héroïne 10 ans après, tu dis. Tu décroches comment? Avec des traitements?
Non, pas du tout.
Tout seul?
Ouais, tout seul. En fait, c'est complètement con, hein. C'est comme la clope, tu sais qu'en 3 jours, t'y arrives.
Ouais.
Mais j'y arrive pas, là.
Ouais.
J'avais trouvé un super système, enfin, qui a marché sur moi. C'est-à-dire que j'avais un petit tableau dans ma chambre qui était accroché au mur.
Ouais.
Qu'on m'avait offert. En anglais, c'était un genre de, pour faire un calendrier, tu vois, de la semaine.
Un agenda de bord.
Voilà, un agenda, et j'avais une craie pour écrire.
Ouais.
Et je m'étais écrit à côté de Monday, j'avais écrit No Dope, à côté de Tuesday, No Dope. Enfin, toute la semaine, j'avais mis l'agenda, c'était No Dope.
Ouais.
Et pendant une semaine, tout ce que j'ai fait, c'était être fidèle à mon agenda.
Ouais.
Et au bout d'une semaine, j'avais complètement arrêté. Alors que j'étais à Paris, ce qui était en général impossible à faire pour moi, d'arrêter en étant à Paris. Et évidemment, pendant ces 7 jours, je me suis totalement interdit de voir les potes qui en prenaient.
Ouais.
Et au bout de 7 jours, j'avais décroché. Ça allait. Et évidemment, j'ai continué à m'interdire de voir ces potes-là.
Ouais.
Donc j'ai perdu des potes.
Ouais. Il y a des potes qui sont morts d'overdose, etc.
Oui, il y en a qui sont morts d'overdose ou du sida.
D'accord, ouais. Donc tu t'es interdit, donc, comme stratégie, tu as fait un petit agenda de bord. Tu sais, ça, c'est une technique motivationnelle. Hein. Cette technique-là, elle marche dans le style aussi pour le tabac.
Ça a bien marché pour moi.
Il faudrait
que je la refasse pour la clope. J'ai essayé de le faire pour la clope et ça n'a pas marché.
Ouais, mais il faudrait peut-être donner après des petits traitements de substitution en plus. Tu as évoqué la stratégie « j'évite les consommateurs qui sont des amis avec qui je consommais ». Tu as mis en place d'autres stratégies ?
Non, c'était à peu près tout, mais ça m'a coûté, hein, de plus voir ces gens-là parce que c'était mes potes.
Ouais.
Tu vois, j'allais voir tous les soirs. On jouait de la musique même ensemble. Ouais. C'était royal.
Ouais.
Donc, ça m'a coûté. Et c'est vrai que, après avoir décroché quand même pendant cette semaine-là, à la fin de cette semaine-là, j'y pensais encore. Quoi.
Ouais, ben ouais.
Ça n'a pas suffi.
T'avais des envies de consommer ? T'avais des envies irrésistibles de consommer ?
Ouais, bien sûr.
Ouais, t'avais des
cravings. Bien sûr, j'avais des envies, mais je me forçais à pas y aller.
Alors, quelle stratégie tu mettais en place devant ces envies ?
Eh ben rien, t'oublies. Ouais. T'oublies le truc jusqu'à demain. Et le lendemain, tu recommences à oublier le truc.
Mais est-ce que tu laissais passer ces envies comme des espèces de vagues ? Tu vois, les vagues, c'est des grandes vagues,
ouais,
et après, ça devient des petites vagues, et au fur et à mesure, t'oublies.
Ouais, c'est exactement ça.
Ouais, tu surfais, quoi.
C'était des vagues. Je crois que j'ai eu une grosse vague au bout d'un mois.
Ouais.
Vraiment, j'avais très envie. Et je me disais, bon, on va laisser passer la vague.
Ouais.
Et c'est sûr que le lendemain, ça allait mieux.
Mais tu ressentais quoi pendant cette vague ?
Je pense qu'au bout de 3 mois...
Ouais, tu te rappelles pendant cette grosse vague ?
Je jouais de la musique.
Ouais.
Je jouais de la musique, je m'intéressais à d'autres trucs, je regardais des films, je lisais des bouquins.
D'accord, ouais.
Je faisais tout pour oublier ça. Et j'avais l'impression que j'avais réussi ma journée si j'avais pas craqué.
Ouais.
Et j'étais fier de pas craquer, donc ouais, ça a aidé. Et j'ai dû avoir une autre vague au bout de 2 mois, une autre au bout de 6 mois, une autre au bout d'un an. Et à chaque fois, je m'interdisais de craquer.
T'as jamais rechuté ?
Et donc... j'ai jamais rechuté. Après cette fois-là, les années d'avant, j'ai souvent rechuté.
Ouais.
Mais cette fois-là, ça a été la bonne, à 30 ans, je crois.
Ouais.
Je me suis dit, j'en ai marre.
Et à ce moment-là, c'était quoi ta vie à côté, à 30 ans ? Donc, il y avait une vie sans héroïne, mais c'était quoi ta vie à côté ? Ta vie, je ne sais pas, sentimentale, ta vie sociale, ta vie professionnelle ?
C'était un peu la même chose, sauf que je refusais de voir les gens qui en prenaient. J'étais même devenu allergique à ces gens-là.
D'accord.
Je leur disais, ah non, pas toi. Toi, t'es défoncé, ça se voit. Je te parle même pas, quoi.
Ouais.
Et donc, après, j'essayais de faire décrocher les gens. C'était devenu...
C'est vrai
Ouais.
Alors, comment t'as fait ? C'était quoi tes modes d'emploi ?
Eh ben, je leur expliquais que si... que je pouvais être leur pote ou je pouvais être leur fiancé aux filles, mais que je voulais pas de ça chez moi.
Ouais.
Et donc parfois ça a marché, parfois on s'est quitté, quoi.
Ouais, ouais. Tu leur faisais quoi, la technique no dope ?
Non. La technique, si t'y touches, t'es plus mon pote.
Ouais, d'accord. Ouais, c'était radical.
Ça revient un peu au même, ouais.
Ouais, bon. C'est un peu pareil.
Ouais.
Et après, après ces années, après ces 30 ans, tu dirais, il n'y a plus de consommation de substances, en dehors du tabac et un peu de cannabis, quoi.
Ouais, c'est ça. Il n'y a plus du tout de ce genre-là. Franchement, je ne voulais plus en entendre parler.
Ouais. C'était sorti de ta vie.
Et j'étais allergique, je les reconnais, les gens qui en prennent. Hein.
Ouais.
Enfin, je ne sais pas si je les reconnais toujours, parce que je n'en vois jamais.
Ouais.
Mais à l'époque, c'était facile. Rien que la voix, le ton de la voix, c'est bon. C'est bon,
ouais.
Désolé, ça sera pas.
Donc
mon
tu les reconnaissais quoi, la voix, un peu au physique,
ouais,
etc.
Il y avait les yeux aussi, les petites pupilles.
Ouais.
Et il y avait la voix, un genre de truc un peu très lent dans la voix, je sais plus.
Ouais. Ouais.
Mais
ouais.
Je reconnais. Un peu nasillard aussi.
Ouais. Louis, pourquoi c'est un honneur pour moi, mais pourquoi t'as accepté de témoigner dans ce podcast qui s'appelle Addiction ?
Bah parce que je sais pas si ça peut aider des gens. Des gens qui sont accros, si mon chemin peut les aider un peu à décrocher, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça aidera
grand monde. Oui, mais c'est comme un message de prévention que tu veux donner. Qu'est-ce que tu donnerais comme message aux jeunes ? Je ne sais pas, toi, tu as 3 enfants, 5, 14 et 18, il me semble.
Ouais.
Qu'est-ce que tu donnerais comme message pour ces générations ? Parce que c'est ces générations-là, on voit bien qu'une espèce d'apologie d'autres substances, mais c'est un peu...
Franchement, je sais pas où ils en sont, tu vois. Je connais pas bien.
Mais il y a le cannabis qui est là, il y a le GHB qui traîne dans la boîte de nuit, il y a les médicaments opioïdes, tu vois, les puffs en cigarettes électroniques. Enfin, tu vois, il y a quand même, les produits, il y a le protoxyde d'azote, etc. Les trucs ont un peu bougé. Il y a de la coke à 17 ans aussi, tu vois. Donc, toi, quel message tu donnerais en tant que, on va dire, quelqu'un qui a connu l'addiction et qui s'en est sorti?
Je sais pas. Franchement, je peux pas me permettre de dire n'y touchez pas parce que je suis pas un bon exemple.
Ouais.
Et je peux dire que quand même, Le fait d'avoir arrêté, même si c'était un soulagement,
ouais.
J'ai quand même eu cette sensation de survivre.
Ouais.
Pendant quelques années même.
Ouais.
Et j'ai l'impression que quand tu es accro à ce truc et que t'en prends pendant, si t'en prends pendant 10 ans, il faut savoir que tu risques de mettre presque 10 ans à t'en remettre complètement.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire à être complètement libéré dans ta tête.
Ouais.
C'est pour ça le message, ça serait plus vous arrêtez vite, moins ça sera chiant longtemps.
Ouais, ouais, c'est ça. Et qu'il y aura moins de conséquences, surtout sur la santé physique, comme les hépatites,
voilà.
Avoir des maladies cardiaques, il peut avoir des maladies pulmonaires, des maladies digestives, des maladies cérébrales, etc. Et des maladies psychiatriques aussi. Hein. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais il y a beaucoup, beaucoup de pathologies psychiatriques associées aux addictions.
Ouais, ouais,
mais chance.
Moi, je connaissais, j'ai connu des mecs qui étaient vraiment à la masse, quoi. Et à l'époque, c'était clair, tu te dis, il a pris un mauvais acide, il s'en est parmi. Hein.
Ouais, ouais. T'avais vu des gens qui étaient un peu scotchés au plafond, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je pense que c'était à cause de ça.
Et juste pour revenir sur la clope, qu'est-ce que t'as envie de faire alors pour la clope?
Écoute, j'en ai un peu marre de tousser tous les matins en me réveillant. J'ai l'impression que je m'abîme de plus en plus les poumons. Et que j'ai l'impression que ça ne me sert pas à grand-chose, sans déconner.
Ouais.
Il se trouve que...
C'est le temps d'arrêter, alors.
Ma femme fume aussi.
Ah.
Donc, ça veut dire qu'il faut non seulement que j'arrête, mais que j'arrive à la faire arrêter en
même
temps.
C'est ça. Ouais, il faut que tous les deux...
C'est pas facile.
Ouais, il faut que tous les deux, vous ayez une stratégie commune. Après, bon...
Ouais. Mais c'est sûr que si j'ai une bonne stratégie, je pourrais la regarder fumer sans me dire je suis obligé de fumer. Bon.
Mais rien n'est perdu, Louis.
Oui, c'est ce qu'on me dit souvent.
Ouais, rien n'est perdu.
Ouais,
tu as quand même décroché, là, ça aussi je voulais le dire, c'est que tu as arrêté l'héroïne sans traitement de substitution aux opiacés comme la méthadone ou la buprénorphine au dosage. Et c'est vrai qu'on utilise quand même beaucoup, beaucoup ce type de traitement pour aider les gens aussi à arrêter leur addiction aux opioïdes, que ce soit des médicaments, que ce soit de l'héroïne, que ce soit de la morphine.
Ouais, mais je me suis toujours dit que si je prenais des médicaments, ça serait un peu la même chose. Et qu'après, j'aurais tendance à être accro aux médicaments. Donc j'ai voulu arrêter sans rien. Quoi.
Bon, écoute, en tout cas, t'as réussi à arrêter sans rien.
Ça a marché.
Quand même, ça a marché pour toi. Ça marche pas chez tout le monde, mais en tout cas, on rappelle bien qu'il y a des traitements aussi qui aident à substituer les gens qui ont des problèmes. Louis, c'était super, merci beaucoup. Je rappelle ton ouvrage qui vient de sortir, qui est une autobiographie bien rock, jolie petite histoire. Aux éditions du Cherche Midi. Merci Louis, c'est super cool, c'était super cool comme moment.
C'est un plaisir.
C'est top.
Ciao.
C'était Addiction, un podcast de France Télévisions. Ça vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également me retrouver dans l'émission Ça commence aujourd'hui, disponible en podcast sur toutes les plateformes ou en vidéo sur France.tv.